Ok, alors jusqu'ici, on a pu voir au cours des quatre exposés précédents plusieurs aspects du rôle des anciens dans l'Église. Hein. Les anciens, pour rappel, c'est le terme qu'on emploie communément pour désigner les responsables dans l'Église locale. Alors d'abord, on a fait un survol de la fonction d'anciens, notamment en rapport avec la structure de l'Église telle qu'on la découvre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On a vu notamment que la Bible présentait un modèle de hiérarchie, en fait, il ne faut pas avoir peur du terme, un modèle de hiérarchie pour le peuple de Dieu. Dieu, tout d'abord, est le maître suprême du monde. Christ, le Fils de Dieu, a été donné pour chef suprême à l'Église, d'après l'Écriture. Mais ici-bas, dans l'Église, eh bien, Christ exerce son autorité par le moyen de sa parole et par la puissance de l'Esprit. Et cela en utilisant un ministère particulier qui est celui des anciens. Les anciens sont comme des lieutenants, on a utilisé ce terme, des lieutenants de Jésus. Ils n'ont pas d'autorité en eux-mêmes, mais ils sont des représentants, les représentants d'une autorité supérieure, celle du Christ, et ils sont chargés d'administrer de façon donc particulière, propre à leur fonction, eh bien, la parole du chef de l'Église, qui est Jésus-Christ. Et voilà. Les anciens n'ont donc d'autorité que dans la mesure où Jésus la leur donne. Hein, l'autorité qu'ils exercent dans les divers aspects de leur fonction, ce n'est pas la leur, c'est l'autorité de Jésus. Donc, d'où l'importance, on l'a mentionné aussi, que les anciens eux-mêmes restent profondément soumis à l'Écriture sainte. Pour toutes ces raisons, eh bien, la Bible présente des exigences très strictes, hein, pour pouvoir exercer cette fonction d'ancien. Tout ça, on l'a vu, hein. Qu'est-ce qu'on avait vu également? On a vu que c'était une fonction qui s'exerçait dans la collégialité, hein, à plusieurs. On parle donc de conseil d'anciens ou encore de collège d'anciens. Ou encore, on emploie parfois le terme de conseil presbytéral, qui vient du mot grec presbyteros, qui veut dire ancien, tout simplement. Pour ce qui est des divers aspects de cette fonction, ou de ce ministère, ou de ce service dans l'Église, on a vu. Avec les exposés 2, 3 et 4, on a vu successivement d'abord que les anciens étaient comme des bergers chargés de nourrir le troupeau. C'est le rapport des anciens à la doctrine de l'Église, une doctrine qu'ils sont censés connaître, dispenser et protéger. On a vu ensuite qu'ils étaient comme des bergers chargés de soigner le troupeau ou encore de prendre soin du troupeau. C'est le rapport des anciens à l'accompagnement de l'Église. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? On a vu que les anciens étaient censés être des hommes qui aiment, qui prient, qui écoute et qui montre l'exemple. Et puis, troisièmement, dans le quatrième exposé, on a vu que les anciens étaient comme des bergers chargés de défendre le troupeau. Donc ils nourrissent le troupeau, ils soignent le troupeau et ils défendent le troupeau. C'est-à-dire qu'ils maintiennent l'ordre dans le troupeau. C'est le rapport des anciens à la discipline de l'Église. Et on a vu que la discipline ou la correction ecclésiastique, c'était quelque chose de nécessaire et de bienfaisant, quelque chose que les anciens devaient exercer dans la sagesse et dans l'amour, et auquel eux non plus ne peuvent se soustraire. Hein. Les anciens, eux aussi, sont soumis à la discipline de l'Église, hein, et à la correction du Seigneur. Alors aujourd'hui, alors tout ça, vous pouvez le reconsulter sur le site internet de l'Église. Hein. Aujourd'hui, on va parler des anciens comme de bergers chargés de conduire le troupeau. Donc ils nourrissent le troupeau, ils soignent le troupeau, ils protègent le troupeau, ou ils défendent le troupeau. Et aujourd'hui, on va voir qu'ils sont chargés de conduire le troupeau, évidemment. Hein. C'est une idée un peu large, c'est sûr, quand on pense au berger, c'est évident que le berger conduit son troupeau, il le conduit dans de verts pâturages, etc. Hein. C'est une idée un peu large, mais c'est fait exprès. Hein. Parce que pour terminer cette série d'exposés, on va réfléchir à un aspect de la fonction des anciens qui est un peu une catégorie fourre-tout. Tout ce qu'on n'a pas pu dire jusqu'à présent, on va le dire aujourd'hui, d'accord? Donc, ils conduisent le troupeau, voilà, c'est un concept assez large pour tout y mettre. Bien sûr que les anciens conduisent l'Église, ça c'est une idée qu'on a déjà dite, mais aujourd'hui on va se poser la question de savoir à quoi ça ressemble un peu plus concrètement, pratiquement, de quoi ça a l'air, voilà, de conduire l'Église. On va aborder des questions plutôt pratiques et terre à terre pour essayer de voir comment ça marche, ou du moins comment c'est. On espère que ça va marcher. Hein. Si je commence déjà à avoir mal à la gorge. Alors, ce qu'on va voir Aujourd'hui, c'est que les anciens sont un peu comme des managers ou des gestionnaires de l'Église. Hein. C'est un aspect de leur ministère aussi. D'après Pierre Bergeron, professeur en management à l'école de gestion de l'Université d'Ottawa, eh bien, les gestionnaires ont quatre fonctions principales. Et ça, je le mentionne juste par à titre d'anecdote un petit peu. Voilà comment on définit un gestionnaire dans le monde séculier. Ils ont quatre fonctions principales qui sont la planification, l'organisation, le leadership et le contrôle. Alors je vais juste très brièvement préciser un peu le sens de ces termes. Planification, on comprend bien. Organisation, c'est-à-dire coordination de tout ce qui se fait. Hein, on pense à une entreprise, tous les services de l'entreprise. Ben, le manager, il est là pour coordonner, organiser le fonctionnement. Leadership, ça consiste tout simplement à conduire les gens, à être un peu en première ligne pour voilà, conduire les gens, leur insuffler un peu le désir d'avancer avec le mouvement. Et puis, quatrièmement, le contrôle. Alors ça, c'est un terme qui est peut-être un peu connoté de façon péjorative, mais en réalité, contrôle dans le sens d'analyse. On fait le bilan, on analyse la situation. On regarde si les objectifs sont atteints, ou si du moins on va dans la bonne direction, et sinon, on corrige le tir, etc. D'accord? Alors, à quoi ça ressemble tout ça dans le contexte de l'Église? Bah, c'est ce qu'on va essayer de voir cet après-midi. La première chose à dire et à souligner, c'est que les anciens, conformément à ce qu'on a déjà pu voir, sont de manière collégiale l'autorité locale de l'Église locale. L'autorité locale de l'Église locale, c'est le collège ou le conseil des anciens. Ce qui veut dire que tous les aspects de la vie de l'Église locale répondent à cette autorité locale. D'accord? Tous les aspects, sans exception. Le culte, l'enseignement, la discipline, toutes ces choses, on les a mentionnées, mais aussi le groupe de jeunes, le groupe de cathé, les camps à la montagne, les sorties PPP qui se transforment en PG, etc. La musique, le groupe de dames, les efforts d'évangélisation, même les actions sociales, l'aspect social de l'Église, ce qu'on appelle la diaconie, tout ça hein, répond à l'autorité de l'Église locale. Hein. Voilà la perspective globale qu'il faut garder en tête. Cette autorité doit donc être reconnue par l'Église, mais elle doit être aussi assumée par les responsables en question, par les anciens. D'accord? Faut reconnaître cette perspective globale. En même temps, petit b, cela ne veut pas dire que les anciens font tout. C'est pas parce qu'ils sont responsables de tout au niveau local, hein, tout ce qui appartient à la vie de l'Église locale, c'est pas parce qu'ils sont responsables de tout ça que c'est eux qui le font, tout ça. Prenez le modèle d'un couple marié. Le mari, d'après l'Écriture, est responsable du foyer, il est le chef du foyer, la Bible dit même qu'il est le chef de la femme. En même temps, ce n'est pas le mari qui fait tout. Il fait peut-être le moins. Mais son épouse, parce qu'elle est une femme, est habilitée de façon unique à réaliser certaines tâches. Et je prends un exemple évident. Comment? On va voir si on a pensé à la même chose. Le mari est responsable, par exemple, de pourvoir. Non, pas la vaisselle, t'as dit? Non. Ouais, non, non, c'est pas un bon exemple, ça. Le mari est responsable de pourvoir aux besoins de la famille, et notamment des enfants, bien sûr, de pourvoir, voilà, pour qu'il y ait du pain sur la table, comme on dit. En même temps, le mari n'est pas capable d'allaiter le bébé qui vient de naître. D'accord? Il ne peut pas lui donner le sein. Dans l'Église de même, les anciens sont responsables de tout ce qui se fait, mais ils ne sont pas habilités à tout faire. D'accord? La Bible parle des dons spirituels que Christ a donnés à tous les chrétiens, c'est-à-dire à tous les membres de son corps qu'est l'Église. D'accord? Responsable, mais pas omnivalent, comme j'ai mis sur le plan. Oh, c'est une modification du terme polyvalent, hein. Ils sont responsables, mais pas omnivalents. Ce n'est pas eux qui font tout. Ils sont responsables. Je répète cette phrase, hein. Les anciens sont responsables de tout ce qui se fait, mais ils ne sont pas habilités à tout faire. Ils sont responsables de tout ce qui se fait, mais pas habilités à tout faire. Mais voilà, on pourrait être tenté de croire que le fait d'avoir un don spirituel, ce qui est le cas de tous les chrétiens ont au moins un don spirituel, c'est la Bible qui le dit, l'Esprit donne des dons, équipe pour le service. Le fait d'avoir un don spirituel n'autorise pas, enfin on pourrait être tenté de croire que le fait d'avoir un don spirituel autorise un chrétien à l'exercer comme bon lui semble, ok, Ça, c'est le mandat que Dieu lui-même me donne. Il m'a donné un don spirituel, je peux l'exercer comme bon me semble, non? Eh bien, ce n'est pas le cas, hein. Il y a quelques années, on a connu une situation dans l'histoire de cette église. Ce n'est pas des gens que vous connaissez, donc je peux en parler. Où quelqu'un estimait avoir un don spirituel qu'elle appelait le don de délivrance. D'accord? Et il y a eu des problèmes dans l'église parce que les anciens, à l'époque, il y avait des responsables à l'époque, ils n'ont pas partagé l'avis de cette personne par rapport à ce que eux considéraient comme étant le meilleur pour le reste de l'assemblée, comme étant bon pour le reste de l'assemblée. Tandis que cette personne, elle, était persuadée qu'il fallait qu'elle exerce son don d'une certaine façon pour le bien de l'assemblée. Les anciens n'étaient pas de cet avis. Et la personne en question, voulant donc exercer son don spirituel indépendamment de l'autorité et de l'avis des anciens, eh bien, ça a créé des divisions dans l'Église. Des gens sont partis, et puis finalement, cette personne aussi est partie. Vous voyez? Ce qui me fait dire ici, ce qui me fait dire ici, que dans l'exercice des dons spirituels, et je vous renvoie pour cette question des dons spirituels, je vous renvoie à la série de prédications de Jonathan, sur les chapitres 12 à 14 de la première épître de Paul aux Corinthiens, mais dans l'exercice des dons spirituels qui sont destinés à l'édification de l'Église, il faut que les membres reconnaissent, acceptent et se soumettent à l'autorité des anciens. Parce que si les dons spirituels ont été donnés aux chrétiens pour l'édification de l'Église, ceux qui sont responsables, en fin de compte, de l'édification de l'Église, ce sont les anciens. D'accord? Donc l'exercice des dons spirituels se fait sous l'autorité des anciens. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 14, même le don de la prophétie, qui est un don excellent, hein, un don très important, en tout cas à l'époque de Paul, même le don de prophétie est soumis à l'examen de l'Église. Hein, donc même quelqu'un qui recevait des paroles de Dieu devait le faire et il était soumis à l'examen de l'Église. Donc il ne pouvait pas prendre ça entre ses mains et le faire comme bon lui semblait. Donc, un. Ou petit A pour vous, le conseil d'anciens est responsable de tous les domaines de la vie de l'Église. Petit B, tous les chrétiens ont reçu des dons spirituels particuliers qui les habilitent à faire certaines choses dans l'Église que les anciens ou d'ailleurs les autres membres sont incapables de faire. Et troisièmement, les membres du corps de Christ doivent en même temps respecter l'autorité des responsables que Jésus lui-même a placés dans son Église. Ok? Que tout se fasse avec bienséance et ordre, comme le dit l'Écriture. Alors voilà pour une vision d'ensemble de la dynamique entre Jésus, les chrétiens, l'Église et les anciens. Voyez un peu comment ça marche globalement, hein, la dynamique. Maintenant, à quoi ça ressemble? À quoi ressemble le fonctionnement ordinaire du conseil d'anciens? Ben, on va être très concret. D'abord, petit A, vous l'avez, hein, il y a la réunion du conseil. La réunion du conseil. Cette réunion doit avoir lieu à une fréquence régulière, du fait de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent par rapport au rôle des anciens, notamment dans le cadre de l'accompagnement de l'Église. Hein, le berger soigne son troupeau, donc il faut que régulièrement le conseil d'anciens se réunisse pour, voilà, examiner, analyser la marche du troupeau. Hein. Donc c'est important de se réunir régulièrement, et mieux vaut trop souvent que pas assez. Alors pour être encore plus concret, pour la taille de notre église, j'envisage personnellement une réunion 2 fois par mois à peu près. Mais avec la croissance de l'église, honnêtement, je pense qu'à un moment, il faut passer à une réunion par semaine. Et c'est ça qui est typique pour la plupart des grandes églises établies, voyez, où il y a des églises autonomes, quoi. C'est un peu le modèle, quoi. Lors de la réunion, les anciens donc font le point sur l'actualité de l'église, quoi, la vie de l'église. Ça, c'est. Vous vous souvenez quand je parlais du rôle du manager dans le monde séculier, c'est le côté un peu contrôle, hein, analyse. On fait le bilan, on regarde, on constate. Ils font le point donc sur l'actualité de l'Église, ils discutent de telle ou telle préoccupation du moment, hein, de la période où ils se réunissent. Ils prennent le temps qu'il faut pour prier pour l'Église, pour ses membres, pour les activités, pour les besoins, etc. Pour telle ou telle situation préoccupante, etc. Hein, rappelez-vous ça aussi, ça fait partie intégrante du ministère des anciens. La prière. Voilà ce qui se passe dans une réunion de conseil d'anciens ordinaire. Petit B, les anciens se consacrent aussi dans le cadre des réunions à la réflexion. Réflexion théologique d'une part, Pourquoi? Parce que la vie de l'Église, la marche de l'Église soulève régulièrement des questions de doctrine qu'il faut traiter. Par exemple, quelqu'un peut arriver dans l'Église et demander, mais pourquoi les femmes dans cette Église ne portent pas le voile lors du culte? C'est déjà arrivé, hein, dans l'histoire de notre Église. Eh bien, le conseil d'anciens doit se réunir. Et effectivement, s'il n'y a pas de document déjà tout fait qui peut donner une réponse, une petite brochure qui a déjà été pondue, le conseil doit se réunir, réfléchir à cette question-là. Effectivement, il y a un texte biblique qui parle de ça, de femmes qui se couvrent. Alors, on réfléchit, on étudie, on prie et on apporte une réponse. Réflexion théologique. Quelqu'un d'autre pourrait arriver dans l'Église et promouvoir auprès des autres membres un livre qui paraît même dans les librairies chrétiennes, mais dont le contenu serait peut-être à certains égards douteux. Ah, là, il faut se pencher sur la question, prendre le temps de lire ce livre, réfléchir en tant que conseiller d'anciens pour pouvoir présenter ben, une réponse qui soit appropriée, etc. Réflexion théologique, mais aussi réflexion stratégique. Hein, comment eh bien, est-ce qu'on va concrètement, dans la vie de l'Église, favoriser l'avancement vers la réalisation de la vision ou du projet de l'Église? Et c'est vrai que notre Église est née il y a 14 ans avec une vision précise. Hein, j'aurai l'occasion d'en reparler à l'occasion de l'Assemblée générale. Tous les ans, on en reparle. Mais il y a une vision précise. Et le Conseil d'anciens est un peu là pour garantir que l'Église essaye d'aller dans cette direction-là et pas dans une autre. Vous voyez? On réfléchit en tout cas à ça. Réflexion organisationnelle aussi. Hein. Par exemple, on constate qu'il y a un besoin dans un domaine particulier. On se pose la question, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les moyens pour satisfaire ce besoin? À qui est-ce qu'on pourrait demander dans l'Église de prendre en charge cet aspect des choses dans l'Église, voilà, pour satisfaire ce besoin. Réflexion organisationnelle. Vous voyez, c'est très concret, très pratique. Hein. C'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours spirituel au sens où l'on entend parfois le mot spirituel. Mais en réalité, c'est spirituel, parce qu'on parle de l'Église de Jésus-Christ. Hein. On parle de son œuvre. Donc, voilà. Et puis, bien sûr, il y a sans doute d'autres types de réflexions. Hein. Donc, le conseil d'anciens est appelé à faire ça. Petit C. Les anciens sont bien sûr amenés à prendre des décisions, on l'espère, parce qu'un conseil d'anciens qui ne prend jamais de décision, c'est pas top. Les anciens vont faire tout leur possible, ça c'est important, ils vont faire tout leur possible pour que les décisions soient toujours prises à l'unanimité. Pour cela, il est nécessaire, vous comprenez bien, que les réunions soient assez fréquentes pour que le débat, s'il a lieu, puisse avancer assez rapidement et ne pas traîner. Donc, prendre des décisions unanimes, ça ne veut pas dire prendre des décisions hâtives. Hein? Ça veut dire prendre le temps de suffisamment discuter, de suffisamment prier, de suffisamment réfléchir, non seulement en tant que conseil d'anciens, mais aussi indépendamment les uns des autres, par des lectures personnelles, etc., pour pouvoir aboutir à un consensus et prendre des décisions unanimes. Ce n'est pas une règle absolue, hein, mais c'est un objectif et il faut que les anciens cherchent à ce que ce soit le cas le plus souvent possible. Il faut que les débats entre les anciens, quand il y a des sujets, comme j'ai dit, je prends l'exemple d'une réflexion théologique sur tel ou tel point, bon, les anciens sont un peu obligés d'apporter une réponse parce qu'il y a vraiment un enjeu pour la vie de l'Église. Et disons que les anciens ont peut-être des cultures ecclésiastiques légèrement différentes, des arrière-plans légèrement différents, ils sont influencés par des théologiens légèrement différents sur des points secondaires. On va essayer de débattre ensemble, mais de façon amicale, mais non moins franche, pour essayer d'aboutir, pouvoir confronter les idées amicalement, avancer ensemble, et puis aboutir à des décisions, des prises de position qui soient unanimes, que tous les anciens vont pouvoir, en leur âme et conscience, soutenir. D'accord? Et c'est pour ça aussi que le conseil d'anciens doit cultiver son unité. Cultiver son unité. Voilà. Quoi, les anciens sont peut-être amenés à faire des trucs entre eux, aller boire une bière. Enfin, cultiver son unité, quoi. Pour que les anciens s'entendent bien. Non, c'est super
Ne
important.
juge pas.
Que les anciens s'entendent bien, parce que quand on s'entend bien, c'est plus facile d'être en désaccord. Hein? C'est pas vrai? Quand on s'entend bien, c'est plus facile d'être en désaccord et d'exprimer librement son désaccord. Tandis que quand on s'entend pas très bien, on est beaucoup plus, on garde les choses pour soi, et puis ben, ça, c'est pas une bonne chose. Et puis, bon, ça encore, un aspect très concret, mais les décisions du Conseil d'Anciens sont inscrites dans un registre, le registre des décisions du Conseil d'Anciens. Et parfois, ça va se traduire par d'autres choses. Par exemple, si une prise de position théologique est faite par le Conseil d'Anciens, souvent, cette prise de position va être inscrite, par exemple, dans le règlement intérieur de l'Église. Et voilà, sur ce point, alors je reprends l'exemple des femmes qui se voilent au culte. Pour l'instant, le règlement intérieur ne dit rien là-dessus. Peut-être que si ça devient vraiment un enjeu, et que l'Église doit prendre position, le Conseil d'Anciens va pondre un petit paragraphe qui explique de façon succincte la position de l'Église. Pof, voilà. Et ça, c'est un truc, après, qui peut être diffusé. De toute façon, le règlement intérieur est public, hein. N'importe qui peut y avoir accès. Petite idée, les anciens et les documents constitutionnels de l'Église, constitutionnels entre guillemets. Alors, deux remarques par rapport à ça. Non, pardon, une remarque concernant le rapport des anciens aux documents constitutionnels de l'Église et une autre remarque, petit e, concernant le rapport des anciens au conseil d'administration. Alors là, on est vraiment dans le fonctionnement légal de l'association, parce que l'Église est déclarée en association, donc on jongle entre deux réalités, hein, la réalité du modèle biblique et la réalité que nous impose la loi française, hein, la loi portant sur les associations. Ce que j'appelle les documents constitutionnels de l'Église, eh bien, à part la Bible, évidemment, qui est notre document constitutionnel fondamental et inégalable, inégalé. À part la Bible, ces documents, ce sont officiellement la confession de foi de l'Église, qui est la confession de foi de Westminster, c'est les statuts de l'association et c'est le règlement intérieur. Alors évidemment, les anciens doivent connaître et respecter la confession de foi, mais ça on en a déjà parlé quand on a parlé des anciens et de la doctrine de l'Église. Alors vous pourrez réécouter l'exposé là-dessus si vous voulez en savoir plus. Mais les anciens doivent aussi bien sûr connaître et respecter les statuts de l'association. Ça coule de source, et le règlement intérieur. D'après les statuts, c'est intéressant, il est fait mention des anciens dans les statuts. Hein, donc la préfecture est au courant que dans notre église, il y a des gens qu'on appelle des anciens. Enfin, il devrait y avoir des gens qu'on appelle des anciens. Et les statuts disent quoi? Ils disent notamment que les anciens sont chargés d'examiner et d'approuver la candidature des nouveaux membres de l'association, nouveaux membres potentiels, enfin des gens qui font la demande. Les statuts disent que les anciens, et je cite, assure l'orientation spirituelle, doctrinale et stratégique de l'Église. Vous voyez, on est en plein dans ce qu'on est en train de dire maintenant. Les statuts disent aussi que les anciens sont membres de droit du conseil d'administration. Les anciens sont membres de droit du conseil d'administration. Donc ça veut dire que quand, on va y revenir dans un petit moment, mais quand l'Église reçoit un nouvel ancien, il faut que l'Église sache que ce gars-là, en même temps, il va devenir membre du conseil d'administration, et cela de droit. Donc il ne va pas se faire élire au conseil d'administration plus tard. Et comme on le verra aussi dans un petit moment, en principe, les anciens sont anciens à vie. Je dis en principe, on va revenir là-dessus dans un petit moment. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas se représenter tous les 3 ans pour qu'on leur renouvelle leur mandat. D'accord? Mais on va y revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Les anciens sont aussi responsables du contenu du règlement intérieur, d'après les statuts. Alors normalement, les statuts de l'association ne devraient recevoir que peu de modifications, et cela de façon assez exceptionnelle, hein. Mais, bien sûr, il est possible que les anciens jugent qu'une modification soit nécessaire, ou bien peut-être que les membres peuvent porter à l'attention des anciens ou du conseil d'administration qu'une modification serait peut-être utile au statut. Ben voilà, les anciens vont examiner ce genre de choses, hein. Dans ce cas, les anciens vont en parler en conseil, ils vont prendre une décision qui doit ensuite être entérinée par le conseil d'administration qui est l'organe légal de l'association du point de vue de la préfecture, d'accord? Et ensuite, toute modification au statut et au règlement intérieur d'ailleurs devra ensuite aussi être entérinée et approuvée par l'Assemblée générale, c'est-à-dire par les membres de l'Église. D'accord? Donc on est vraiment dans une forme de démocratie là, hein? Parce qu'il n'y a rien qui peut être imposé à l'Église sans l'accord des membres même de l'Église. Vous voyez? En même temps, il y a. C'est très difficile que les membres forcent une modification contre l'avis et des anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment ça marche? C'est un système qui finalement présente pas mal de sécurité. Les anciens vont également, et peut-être plus souvent dans ce cas, proposer des modifications et des enrichissements au règlement intérieur. Donc pas au statut, mais au règlement intérieur de l'association. Par exemple, pour des questions, bon, comme je l'ai mentionné, le port du voile, bon, c'était peut-être un peu en rigolant, mais des questions peut-être plus, plus, pas plus sérieux, mais peut-être plus actuel. Par exemple, pour qui va-t-on célébrer un mariage? Quand quelqu'un va nous écrire, nous appeler pour dire j'aimerais que vous fassiez notre mariage. Comment est-ce qu'on va répondre à ce genre de demande? En fait, il y a déjà un document qui est dans le règlement intérieur là-dessus. Parce qu'il y a quelques années, il y a pas mal d'années d'ailleurs, les responsables de l'époque s'étaient penchés sur cette question, parce que ça se présente assez fréquemment. Ou un autre exemple, mais là on n'a encore rien. Comment répondre à quelqu'un qui demande le baptême? Quelqu'un qui vient au culte pour la première fois et il dit j'aimerais bien être baptisé. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour répondre à ce genre de demande? Et bien sûr, je l'ai dit ça, hein, les modifications réglementaires intérieures doivent être entérinées par le conseil d'administration et par l'assemblée générale. Okay. Deuxième remarque, donc cette fois concernant le rapport des anciens au conseil d'administration. D'après les statuts, les anciens sont donc membres de droit du conseil d'administration, mais le conseil d'administration peut avoir jusqu'à 5 membres supplémentaires, en plus des anciens. D'accord? Donc, aussi bien le conseil d'administration peut être formé que d'anciens, ou bien d'anciens plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5. D'accord? Les anciens vont se réunir en tant que conseil d'anciens régulièrement de leur côté, sans les membres du conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines prérogatives en tant qu'anciens qui n'appartiennent pas aux membres du conseil d'administration qui, quant à eux, ne sont pas anciens, vous voyez? Mais en même temps, le conseil d'anciens va travailler en étroite collaboration, en rapport étroit, en fait, avec le conseil d'administration. Donc les anciens en rapport étroit avec le conseil d'administration, parce que le conseil d'administration, comme je l'ai dit, c'est l'organe légal qui représente l'Église au niveau des autorités. Donc il va y avoir forcément des réunions régulières du conseil d'administration complet, ancien et laïque, pour qu'il y ait ce rapport étroit qui soit entretenu, pour qu'il y ait une véritable communication. Hein. D'accord? Très bien. Troisièmement, les anciens et les diacres. La Bible parle de deux types de ministères dans l'Église, hein. Deux types de ministères principaux, celui d'ancien et celui de diacre. Les anciens sont les responsables, comme on l'a dit, mais les diacres, et là je vais citer notre règlement intérieur, les diacres sont, conformément à ce que dit l'Écriture, des serviteurs dont le rôle, parce que c'est le sens, hein, étymologique du mot diacre, des serviteurs dont le rôle est de représenter les anciens dans toutes les tâches matérielles de l'Assemblée. Fin de citation. J'ai eu l'occasion de prêcher sur le passage de 1 Timothée où il est question des diacres. Et ce que j'ai souligné dans ce passage, c'est qu'en fait, les diacres étaient chargés du service matériel dans l'Église, tout simplement. Hein? Alors, Dieu voulant, on aura l'occasion peut-être l'année prochaine ou dans quelques années de faire une série d'exposés sur le rôle des diacres dans l'Église, en vue de recevoir des diacres. Pour l'instant, on n'a pas de diacre, comment dire, qui porte officiellement le titre de diacre. On a beaucoup de serviteurs dans l'Église. Hein. Et des gens qui exercent, même sans la reconnaissance officielle, un rôle, en fait, de diacre, sans avoir le titre, sans avoir le badge, si j'ose dire. Mais pour l'heure, en tout cas, il faut retenir cette idée, hein. Les diacres sont des genres de délégués des anciens pour tout ce qui relève du service matériel dans l'Église. Ce qui peut aussi bien comprendre la trésorerie, hein, la comptabilité, le trésorier de l'Église, c'est un diacre dans la nature de ce qu'il fait. Ça peut aussi bien comprendre ça que le secours des nécessiteux, hein, des gens qui sont dans le besoin, apporter une aide matérielle, mettre en œuvre les moyens pour venir au secours des frères et sœurs de l'Église qui sont dans le besoin. En même temps, vous savez qu'un des rôles des anciens, c'est aussi de visiter les malades et notamment de prier pour les malades, prier pour les nécessiteux, pour les gens qui sont dans le besoin. Et parfois aussi, la situation précaire d'une personne peut être liée à un besoin spirituel. Il peut y avoir un lien entre les deux, un lien intime même. La situation précaire d'une personne peut même être liée à un péché dans la vie de cette personne. C'est possible aussi. Tout cela veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, la distinction entre besoin matériel propre au ministère des diacres et besoin spirituel propre au ministère des anciens, la distinction entre les deux parfois va être floue. Ça va être difficile de faire la part des choses. Le travail des diacres doit donc être lui aussi en rapport étroit avec celui des anciens, et vice-versa. Ce que font les diacres dans l'Église doit être connu par les anciens. Les anciens doivent être au courant, les diacres n'œuvrent pas dans leur coin. Et ce n'est pas parce qu'ils ont un titre officiel dans l'Écriture, un ministère particulier, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur coin et s'organiser tout seuls et faire ce qu'ils veulent. Il doit y avoir une communication parce qu'on parle d'une seule et même église locale, on parle d'une assemblée composée des mêmes personnes. D'accord? Et comme je l'ai dit, la distinction entre besoins matériels et spirituels est parfois floue. Les diacres, hein, sont mentionnés en tant que ministère à part entière dans la Bible. Hein. Ils ont une reconnaissance officielle dans la Bible. C'est ce qui distingue les diacres des autres membres de l'Église qui sont ni anciens ni diacres, mais qui pourtant servent aussi dans l'Église, mais sans avoir un ministère particulier, mais en vertu des dons spirituels que Dieu leur a accordés. Donc il y a une distinction, mais le rapport des diacres aux anciens, en fin de compte, ressemble quand même au rapport de tout autre membre de l'Église aux anciens. L'autorité de ceux-ci, des anciens, du collège des anciens, doit être reconnue et respectée. Et bien sûr, ça marche dans l'autre sens aussi. L'autorité doit être assumée par les anciens. Les anciens qui se désintéressent totalement de ce que font les diacres dans leur église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une part de leur travail qu'ils n'assument pas. La question de l'argent, un petit mot sur la question de l'argent dans l'église et du rapport des anciens à l'argent. Alors, si vous avez suivi, eh bien, parce que l'argent fait partie de la vie de l'Église, eh bien, en principe, les anciens sont responsables de cette dimension aussi, de la vie de l'Église, des finances donc. Mais en principe, toujours, les anciens ne sont pas appelés à gérer les finances eux-mêmes. Ça, c'est plutôt de l'ordre de ce qui est matériel dans l'Église, et la gestion de l'argent, de la trésorerie, de la comptabilité est normalement, appartient normalement aux diacres. Donc toujours en principe, ce sont les diacres qui vont préparer les budgets, etc. Ce sont les diacres qui vont les préparer, mais ensuite les faire approuver, les présenter aux anciens, parce qu'ils reconnaissent l'autorité finalement du Conseil des anciens. En principe toujours, l'anonymat des donateurs est préservé vis-à-vis des anciens. Pourquoi? Pour éviter le piège du favoritisme. Ah tiens, celui-là, il donne beaucoup d'argent à l'église, donc je vais lui rendre visite plus souvent. Vous voyez? Oh, celui-là, il donne pas beaucoup d'argent, tant pis s'il quitte l'église, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est grave, mais c'est comme ça qu'on réfléchit, hein. Non, c'est le cœur humain. Hein. Pour éviter le favoritisme, éviter aussi les démarches intéressées. Ouais, il donne beaucoup, je vais aller lui rendre visite, peut-être qu'il me refilera un petit billet, enfin, j'exagère, mais. Donc en principe, toujours, hein, l'anonymat des donateurs est préservé, mais ce n'est pas un principe absolu. Ce n'est pas un principe absolu parce qu'on peut tout à fait imaginer des situations où l'information est nécessaire. Mais en tout cas, la discrétion est de mise et en principe, l'anonymat doit être préservé. Mais encore une fois, hein, on ne peut pas établir ça comme un principe absolu. On peut pas l'établir comme un principe absolu, parce qu'en fin de compte, les anciens sont quand même responsables de ce qui se passe dans l'Église. En principe, toujours, il vaut mieux éviter que les anciens soient rémunérés par l'Église. Je peux imaginer une Église où, une Église bien développée, où finalement, la majorité du conseil d'anciens, ce sont des gens qui sont payés par l'Église, parce qu'ils ont un travail. Soit en tant que directeur de l'école chrétienne attachée à l'Église, soit en tant que secrétaire, soit en tant que responsable des efforts missionnaires de l'Église. Je parle de grandes églises, vous voyez, qui ont un personnel qui s'élève à 40, 50 personnes. Il est possible qu'une majorité d'anciens au conseil de l'Église locale soit en fait rémunérée de façon directe ou indirecte par l'Église. Ce n'est pas une situation très saine, ça. Hein, parce que ça va compromettre un peu les motivations des anciens dans l'exercice de leur ministère. En même temps, il n'y a pas d'opposition, enfin, il n'y a pas d'interdiction absolue que ça se passe, mais il vaut mieux éviter ce genre de situation. Petite parenthèse concernant la question des pasteurs qui sont employés par l'Église. Moi, je pense qu'un pasteur devrait être payé par son Église locale. Bon, ce n'est pas dans la Bible, ça, mais je pense que c'est la logique. Mais rappelez-vous que le pasteur titulaire, il est un ancien parmi d'autres. Donc, à lui tout seul, il peut pas exiger son salaire, par exemple. C'est la décision du conseil d'anciens. Et puisqu'il s'agit d'argent, c'est fait aussi en consultation avec les diacres. Et puis, bien sûr, de toute façon, le budget doit être approuvé par l'Assemblée. Donc, vous voyez, il y a une certaine sécurité. Mais Donc, vous voyez, il n'y a pas de. On peut tout à fait être un pasteur, voire avoir plusieurs pasteurs qui sont payés par l'église locale, c'est pas un problème. Alors pourquoi j'ai dit en principe tout au long de ce paragraphe? C'est parce que la réalité d'une église, surtout d'une église en création, en processus de création, c'est qu'il faut bien faire avec les moyens du bord, tendre vers une situation idéale, mais bien souvent on fait avec la situation, avec la réalité de la situation telle qu'elle est, on fait du mieux possible. Ouais, c'est pour ça que ici, par exemple, depuis 7 ans, pratiquement 8 ans maintenant, on n'a pas un conseil d'anciens dans cette église, mais on fait avec ce qu'on a et on fait du mieux possible pour essayer de tendre vers le modèle biblique. Et puis bien sûr, et ça c'est un principe qui est cher à Jean Calvin, c'est que les situations extraordinaires imposent parfois des mesures extraordinaires. Les situations extraordinaires imposent parfois des mesures extraordinaires. C'est pas parce que dans une situation extraordinaire, on prend des mesures extraordinaires, que ces mesures extraordinaires deviennent normatives pour toute situation, loin de là. Quatrièmement, les anciens et la vie ordinaire de l'Église. Quelle est l'implication des anciens dans la vie ordinaire de l'Église? Quelle est l'activité principale de la vie ordinaire de l'Église? C'est le culte, hein? Ça, c'est le rendez-vous hebdomadaire, le jour du Seigneur, où l'Église se réunit en principe, voilà, pour offrir un culte à Dieu. Les anciens, bien sûr, sont chargés de réfléchir à la question du culte, à son déroulement, aux éléments qui vont le constituer. On en a parlé déjà, mais les anciens sont responsables de l'enseignement qui est dispensé. Et l'enseignement est dispensé déjà par excellence lors de la prédication, le dimanche. Donc ils sont appelés à réfléchir à ces choses. Les anciens sont appelés à prendre part aussi. Alors ça, j'espère que vous allez voir la logique de ce point. Les anciens sont appelés à prendre part à la présidence, de temps à autre, de divers aspects du culte. Alors, parce que les anciens sont aptes à l'enseignement, on peut bien sûr penser à la prédication ou à d'autres formes d'enseignement. Parce que les anciens sont appelés à prier et à ouvrir la voie dans ce domaine, dans la vie de l'Église, dans le domaine de la prière, ils sont appelés à présider parfois à la prière, au culte, hein. Les lectures, bien sûr, y compris les sacrements. Il est donc normal de voir des anciens devant plus souvent que les autres membres de l'Église dans le cadre du culte. Certes, il faut prendre en compte le fait que tous les anciens ne sont pas nécessairement spirituellement doués, c'est-à-dire par référence au don spirituel, spirituellement doués pour participer à tous les aspects du culte, par exemple la prédication, tous les anciens ne sont pas appelés à être des prédicateurs. Aptes à l'enseignement, ça ne veut pas dire prédicateur, ça veut dire être capable de connaître et d'expliquer la doctrine, mais pas forcément prêcher. Donc certes, tous les anciens ne sont pas nécessairement doués spirituellement pour participer à tous les aspects du culte, mais en même temps, et c'est là l'idée que j'aimerais qu'on retienne, la présence visible des anciens assure leur reconnaissance en tant que responsables. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les anciens sont visibles régulièrement, qu'on les voit, qu'on voit qu'ils agissent et qu'ils participent, ça aide à ce que leur ministère, leur fonction soit reconnue dans l'Église. Donc, quelqu'un qui va venir à l'Église peut-être pour la première fois et qui va commencer à venir pendant deux ou trois mois, au bout des 3 mois, ça lui sera naturel de songer à certaines personnes comme étant les responsables de l'Église locale. Pourquoi? Parce qu'il les aura vus devant régulièrement, à prendre en charge un peu une part de ce qui se passe, notamment lors du rendez-vous de l'Église par excellence, qui est le culte le dimanche. C'est délicat, au bout de 3 ou 4 ou 6 mois, que quelqu'un dise, mais qui est responsable dans cette église? Donc toi, t'es le pasteur, apparemment tu prêches. Ok, qui d'autre est responsable? Et je lui dis, ben, Jonas est responsable. Jonas, c'est qui Jonas? Tu sais, c'est le grand avec les lunettes et la belle veste. Non, j'ai jamais remarqué. Tu sais, il s'assoit derrière, il fait rien. C'est un peu délicat, vous voyez ce que je veux dire? Non, normalement, la question ne se pose même pas. Les responsables, on les voit. Hein? Ok. Les anciens sont également responsables de la vie de tous les petits groupes dans l'Église. Je vous renvoie à ce que j'ai dit au début. Hein. Ils sont responsables de tout ce qui se passe dans l'Église locale. Donc, également, a fortiori, de la vie de tous les petits groupes. Hein. L'école du dimanche, je l'ai mentionné. le groupe de catéchisme pour les enfants, le groupe de jeunes, le groupe de dames, etc., etc. Les anciens vont donc essayer d'avoir, disons, des interlocuteurs pour chaque groupe. Et donc c'est logique et normal que dans la vie de l'Église, les groupes de vie, je ne sais pas comment on peut les appeler, dans certaines églises ils parlent de cellules de vie, ou des groupes de quartier, mais bon, pour notre église, pour l'instant, on n'est pas organisé en quartier, donc on ne peut pas tellement utiliser ce terme, ou les groupes de maison. En tout cas, il est normal que dans chacun de ces groupes, il y ait des responsables pour le groupe qui soient les interlocuteurs des anciens. Pourquoi? Pour que les anciens puissent suivre, hein, faire leur travail d'analyse, de contrôle, hein, entre guillemets, hein, j'utilise pas ce terme dans un sens péjoratif, pour savoir ce qui se passe dans les groupes, pour pouvoir prier avec pertinence pour la vie de ces groupes, pour les besoins éventuellement des personnes dans ces groupes, etc. Sans pour autant que ce soit les anciens nécessairement qui soient responsables dans les groupes, vous voyez? Parce qu'en faisant ça, on épuise les anciens. Surtout une fois que l'Église commence à grandir et que les groupes se multiplient, si les anciens doivent se répartir tout ce qui, enfin, voilà, la responsabilité de tout ce qui se passe, c'est difficile. Alors j'insiste, hein, je viens de le mentionner, mais j'insiste quand même que sur le fait que les anciens ne doivent pas chercher à contrôler au sens péjoratif du terme la vie des groupes dans l'Église. Normalement, le responsable du groupe en question a été dûment nommé et mandaté pour son service, quel qu'il soit. Le responsable du groupe de jeunes, il est mandaté voilà, prendre la responsabilité un peu du groupe. Il ne faut pas que les anciens soient là, quelque part, à contrôler, à tenir avec une laisse le responsable, voire même à tyranniser, à imposer des choses. Voilà. Les anciens sont responsables, mais ils ne sont pas omnivalents. Et enfin, la question des projets dans l'Église, comme vous l'avez compris, hein, les anciens sont responsables dans ce domaine aussi. Hein. De quoi je parle quand je parle des projets? Je parle des activités ponctuelles. Par exemple, on décide d'organiser une mini-conférence sur 2 jours, voilà. Hop, projet ponctuel. Mais je parle aussi des grands projets de l'Église, des projets qui vont déterminer un peu son avenir, par exemple la recherche d'un lieu de culte, je prends un exemple comme ça. C'est principalement aux anciens de réfléchir à la stratégie à mettre en œuvre pour la réalisation de ces projets. C'est aux anciens de réfléchir à l'orientation que vont prendre ces projets. Et c'est aux anciens de réfléchir aussi au caractère bienvenu ou malvenu de ces projets, de certains projets qui sont proposés, parce que beaucoup de gens peuvent avoir des idées dans l'Église et les proposer. Il n'y a pas de mal à ça. Par exemple, quelqu'un pourrait proposer, dans l'Église, pourrait proposer qu'on développe un ministère d'aide aux prostituées. Ça se fait, hein? Super idée, c'est un vrai besoin. En même temps, les anciens peuvent juger que ce type de service, en l'état actuel de l'Église, ne correspond ni à ses moyens, ni à ses priorités. Ce n'est pas un jugement de valeur sur le projet en lui-même. Mais les anciens doivent prendre ce genre de décision, doivent analyser et juger de ce genre de situation. Et la personne qui a eu l'idée, ben, devra peut-être difficilement, certes, parfois on est enthousiaste pour un projet parce qu'on voit que ça se fait ailleurs et on a envie de s'investir. Et puis parfois, il faudra peut-être réorienter ses désirs, cet enthousiasme, et en tout cas accepter l'autorité des anciens. Ce qui parfois n'est pas facile du tout. Mais vous pouvez imaginer que c'est pas facile non plus pour les anciens de dire non à des membres de l'Église. Hein. Bien sûr, les anciens devront expliquer de la meilleure façon possible les raisons de leur décision. Parfois, ils pourront pas expliquer les raisons de leur décision, dans certains cas. Ils pourront pas, non pas qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils devront préserver certaines informations, bien sûr, dans le cas d'un projet d'aide aux prostituées, c'est pas un problème, mais je veux dire, parfois les anciens, ça, j'élargis un peu le sujet, mais parfois les anciens prennent des décisions, et à cause de leur devoir de confidentialité, ils ne pourront pas expliquer, ils ne devront pas expliquer aux membres certains facteurs qui ont joué dans leur décision. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, rappelons-nous de cette instruction de l'Écriture selon laquelle les anciens ne doivent pas tyranniser le troupeau, hein, mais au contraire, prendre soin de l'assemblée en étant de bons bergers à l'image de Jésus-Christ, hein, le bon berger par excellence. Les anciens vont chercher à avancer dans le sens de la vision de l'Église, et cette vision, par définition, devrait être visible. Elle devrait être visible pour les anciens déjà, mais c'est aussi le rôle des anciens de maintenir visible la vision à l'Église, au reste de l'Église. Ce sont les anciens qui portent cette vision, qui sont censés la communiquer. Et là, on est plus dans le domaine du leadership auquel je faisais référence en introduction. Le fait d'entraîner des gens à notre suite, hein, d'ouvrir la voie et d'insuffler le désir aux gens de suivre. Ça, c'est ça le leadership. Donc on expose la vision, on la rend visible pour que les gens comprennent dans quel sens on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on recherche, pourquoi effectivement certains projets, on va les mettre de côté pour l'instant, parce que ça ne correspond pas aux priorités de l'Église à ce moment-là. Et quand on communique cette vision, et ça c'est encore une fois le rôle des anciens, bien toute l'assemblée va y voir plus clair et mieux comprendre ce qui se passe. Ok, dernier point sur votre plan. La nomination des anciens. Comment les anciens sont-ils nommés? Eh bien, ça commence par le discernement d'un appel. Je vous apprends rien, vous avez le plan. Petit A, le discernement d'un appel. Alors, rappelez-vous, c'est Christ, hein, qui a voulu que l'Église ait des responsables locaux. C'est Christ, dans sa souveraineté, qui va permettre que des hommes aient cette responsabilité et occupent cette fonction dans l'Église. Ce sont ses lieutenants. Il faut donc que les anciens soient appelés par Jésus. Comment s'assurer qu'un ancien est appelé par Jésus? Comment?
Une lettre sur ton portable,
Ah, un
dans le
texto.
journal, ils appellent Jésus.
Ah oui. Eh bien, c'est intéressant de voir que Paul, dans la première épître à Timothée, chapitre 3, parle de gens qui aspirent à cette charge, des gens qui désirent ce qu'il appelle une belle activité. C'est intéressant, non? Il y a donc une question de désir personnel et donc de conviction intérieure, d'aspiration personnelle. Ça entre en jeu. En même temps, et juste après, dans le même passage, Paul fait toute une liste, hein, de qualités que les candidats anciens, c'est-à-dire les gens qui aspirent à cette charge, doivent respecter, doivent remplir, des conditions qu'ils doivent remplir. Et c'est assez exigeant, hein, on a eu l'occasion de la voir, cette liste. Donc, tous les gens qui ont l'aspiration de devenir anciens ne sont pas forcément appelés à être anciens. Ils peuvent avoir cette aspiration, mais il faut encore ensuite qu'ils remplissent la liste des critères, hein, que Paul lui-même, hein, sous l'inspiration de l'Esprit, présente dans l'Écriture sainte. Et certaines de ces qualités, c'est intéressant également, se réfèrent à l'opinion que les autres ont de la personne. Autrement dit, l'avis des gens dans l'Église compte aussi pour discerner un appel. Et enfin, on voit aussi dans le Nouveau Testament que parfois Paul lui-même nomme des anciens, ou parfois Paul va charger quelqu'un d'autre de nommer des anciens. On voit ça dans l'épître à Tite, par exemple. Il dit à Tite, tiens, je t'ai laissé à Crète. En Crète ou à Crète? En Crète, pour que tu nommes des anciens, pour que tu établisses des anciens. On voit donc que l'avis des gens qui sont déjà dans une position d'autorité, donc Paul par exemple en tant qu'apôtre, Tite en tant que pasteur, l'avis de ces gens est également déterminant pour discerner l'appel. Excusez-moi, il n'y a plus d'eau. Ben, il n'y a plus de bouteille non plus. Donc on retient pour l'instant ces trois choses. Hein. Petit A, comment discerner un appel? Eh bien, trois choses. L'avis du candidat, l'avis de l'Église et l'avis des responsables qui sont déjà en place. D'accord? L'avis de la personne concernée, l'avis de l'Église et l'avis des responsables qui sont déjà en place. Et les responsables qui sont déjà en place vont approuver ou non la candidature de quelqu'un, en tenant compte évidemment de tout ce qu'on a déjà mentionné, donc la liste de critères bibliques et l'opinion de l'Église. Mais le plus souvent, enfin, comment dire, c'est assez rare que quelqu'un se présente en disant j'aspire à la charge d'ancien. C'est assez rare. C'est possible, mais c'est assez rare. Le plus souvent, ce sont les anciens qui sont déjà en place, qui vont prendre l'initiative et qui vont discerner chez quelqu'un l'aptitude potentielle à exercer cette fonction. Ils vont se dire, tiens, tu sais, Robert, ça fait voilà, 3-4 ans qu'il vient à l'église, il est membre, tout ça. Vraiment, il a le cœur d'un berger, il s'occupe. Il pourrait peut-être être un ancien. Donc vous voyez, le plus souvent, ce sont les anciens en place qui prennent l'initiative. Donc une personne qui a été approuvée et nommée par les anciens, en tenant compte de tous ces facteurs, va ensuite être présentée à l'assemblée entière pour que celle-ci l'approuve à son tour. D'accord ? Pas question d'imposer non plus. Disant, ben, Robert, on va le prendre et on va le mettre comme ancien, qu'il soit d'accord ou non dans l'église. On va leur faire cadeau de Robert. Pour leur bien. Le principe de l'approbation par l'Assemblée, ce principe, on le trouve dans l'exemple du Nouveau Testament, à plusieurs endroits. D'accord ? Par exemple, dans Actes 6, verset 3, il ne s'agit pas des anciens, il s'agit des diacres. Mais on peut voir ce principe qui apparaît. Oh là là. Oui, dans Actes 6, verset 3, c'est le chapitre du livre des Actes où il faut que l'Église trouve des diacres. Et on voit que les apôtres disent aux gens de l'Église, discernez parmi vous s'il n'y a pas quelqu'un qui ferait bien ce travail. Vous voyez ? L'Assemblée prend une part active dans l'approbation des gens qui sont nommés à des responsabilités. Donc c'est un principe qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et de toute façon, c'est une démarche de bon sens. Hein. Pourquoi c'est une démarche de bon sens ? Parce que les anciens sont appelés à diriger ces gens-là. Donc si les gens, dès le départ, pensent que ce sont des gens qui ne sont pas aptes à le faire, ça risque pas de bien marcher. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est que les anciens, en principe, sont nommés pour une durée indéterminée. Alors quand j'ai dit avis, ça peut être mal compris, hein, comme si c'était une espèce d'onction que l'on reçoit et qui ne nous quitte plus. Non, ils sont nommés pour une durée indéterminée. Rappelez-vous que les anciens sont des responsables locaux. Hein, ce sont les responsables locaux de l'église locale. Donc un ancien qui change d'église, il perd d'office son titre d'ancien. Hein. Il faut qu'il soit réapprouvé comme ancien dans l'église où il va. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, de toute façon, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pour une durée indéterminée ? Parce qu'on n'a pas de raison de croire autrement d'après la Bible. Hein. La Bible ne dit pas que c'est pour une durée déterminée. Et on n'a pas d'exemple d'ancien qui doit tous les 2-3 ans se refaire approuver, réapprouver par l'Église. Hein. L'ancien est ancien à vie, mais, comme je viens de le dire, dans l'Église locale. Hein. S'il change d'Église, c'est pas pareil. À moins qu'il démissionne, ce qui se fait librement, les modalités qui sont précisées dans le règlement intérieur d'ailleurs, c'est tout à fait possible pour un ancien du jour au lendemain de démissionner. Hein. Ou bien encore, il est possible qu'un ancien soit radié. Hein. Et pour cela, je vous renvoie à l'exposé qu'on a fait sur l'ancien et la discipline de l'Église. Les anciens sont eux aussi soumis à la correction de l'Église, à la correction du Seigneur à travers la discipline de l'Église. Et enfin, on pourra approfondir au moment des questions si vous voulez. Hein. Et enfin, lorsqu'un candidat a été nommé par les autres anciens, qu'il a été approuvé par l'Assemblée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une forme de cérémonie qui est organisée, une cérémonie entre guillemets, hein, normalement à l'occasion d'un culte, un peu similaire à lorsqu'on reçoit des nouveaux membres, ou lorsqu'on fait un baptême, par exemple, une cérémonie qui est organisée à l'occasion d'un culte. Pourquoi ? Pour officiellement et solennellement installer le nouvel ancien dans sa fonction, dans son ministère. On parle aussi de le consacrer à son ministère. Pourquoi est-ce qu'on emploie ce type de langage ? Parce que dans la Bible, c'est vraiment présenté comme un ministère solennel. Et c'est aussi un exemple qu'on voit dans le Nouveau Testament. Hein. Je vous donne quelques références bibliques, si vous voulez les noter, vous pouvez les lire plus tard. Hein. Acte 13, 3, Acte 14, 23, 1 Timothée 5, 22, où l'on voit que Paul parle d'imposer les mains. Lorsqu'il utilise cette expression d'imposer les mains, ce n'est pas juste une métaphore, hein, c'est quelque chose qui se pratiquait. On imposait les mains lorsque l'on consacrait quelqu'un à un ministère. Pourquoi? Pour symboliquement manifester, comment dire, pour symboliser l'autorité qui leur est confiée lors de cette cérémonie. Et donc le caractère un peu solennel de la charge qu'ils sont appelés à avoir. Et à l'occasion de cette cérémonie, de cette consécration, de cette installation, entre guillemets, on va demander aux anciens également de publiquement s'engager à exercer pieusement leur ministère, hein, dans la soumission à Jésus et à sa parole qui est la Bible. Voilà, vous avez vu qu'on a pu parler de choses très pratiques, hein, aujourd'hui. L'ancien est un berger chargé de conduire le troupeau. Et on a pu voir cet après-midi que ça impliquait beaucoup d'aspects très divers. Et c'est pour ça que j'ai dit en introduction que cet exposé, c'était un peu un exposé fourre-tout. On allait mettre un peu tout ce qui restait à dire. Mais j'espère qu'on a pu parcourir au cours de ces cinq exposés, en tout, eh bien, en gros, l'ensemble des caractéristiques propres à la fonction d'ancien dans l'Église locale, hein, c'est-à-dire des responsables de l'Église locale. Et cela d'après la Bible. Juste avant de terminer, je voudrais vous lire une citation que j'ai trouvée récemment d'un auteur latin inconnu. Inconnu, on ne sait pas qui c'est qui a dit ça. Ça date du IVe siècle. On a pensé que c'était Saint Ambroise de Milan, qui n'est pas beaucoup plus connu, en tout cas pour moi. Ça ne m'aide pas, en tout cas, de savoir ça. Mais en tout cas, ce n'était pas lui, apparemment. Mais voilà ce que cet auteur latin du IVe siècle dit en commentant un passage de 1 Timothée, hein, la première lettre de Paul à Timothée. Et il fait une remarque qui est très intéressante, surtout pour le IVe siècle. Enfin, pourquoi surtout pour le IVe siècle? Très intéressante pour nous aujourd'hui, en tout cas, et c'est intéressant de savoir que ça remonte au IVe siècle, concernant l'indispensabilité, peut-être devrais-je dire le caractère indispensable, des anciens dans l'Église. Et vous allez voir que juste après, il ajoute un avertissement. Voilà ce qu'il dit. La synagogue ancienne, et ensuite l'Église, a eu des anciens dont le conseil était nécessaire pour que quelque chose se fasse. Vous avez suivi ce qu'il a dit? La synagogue ancienne et ensuite l'Église, et rappelez-vous qu'on avait vu le modèle des anciens présent dans l'Ancien Testament chez les Juifs, donc, et ensuite l'Église a eu des anciens dont le conseil était nécessaire pour que quelque chose se fasse. Je ne sais pas comment les choses sont allées en se dégradant, si ce n'est à cause de la paresse, ou plutôt de l'orgueil des personnes instruites qui ont voulu dominer toutes seules. Donc il est en train d'analyser un peu la déchéance, on va dire, peut-être graduelle, progressive, du rôle des anciens dans l'Église, en tout cas à son époque. Il dit, mais pour que quelque chose se fasse, il fallait le conseil des anciens. Donc je pense que, enfin j'ai pas le contexte, mais je pense qu'il a en tête aussi des choses très pratiques, comme on l'a vu cet après-midi. Pour que quelque chose se fasse et que cela se fasse bien, il faut qu'il y ait cette autorité que dans l'Église locale que Jésus lui-même a prévue. Et quant à moi, je vais juste citer de nouveau ces paroles formidables de l'apôtre Pierre, auxquelles on s'est déjà référé à plusieurs reprises, mais je pense que c'est vraiment une belle façon de terminer cette série d'exposés. Deuxième épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Non, ça ne peut pas être chapitre 5, puisqu'il n'y a pas 5 chapitres à la deuxième lettre de Pierre. C'est la première lettre de Pierre. Voici ce qu'il dit. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Deux points. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, pasteur qui signifie berger, hein, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Amen.